Le petit Johannes, chapitre 3. Dis presto, où est-il? Où est donc le maître? Quelle peur te saisit en t'éveillant dans la barque, seul, abandonné, au milieu des roseaux? Il y a vraiment de quoi être inquiète. Depuis des heures, tu cours ça et là en Japon. Pauvre presto, qu'as-tu fait pour dormir si profondément et ne pas sentir que ton maître te quittait? Autrement, au moindre de ses mouvements, tu t'éveillais. À peine peux-tu reconnaître l'endroit de la rive où il a abordé, et maintenant tu as entièrement perdu sa trace. Ah, tu as beau flairer de tous côtés, quel désespoir! Ton maître est parti. Allons, cherche, presto, cherche. Là, droit devant toi, sur la pente de cette dune, n'aperçois-tu pas quelque chose de noir? Cours y voir. Un instant, le chien reste immobile, le nez au vent, les yeux fixes. Tout d'un coup, il avance la tête, bondit, vole de toute la force de ses petites pattes vers la tache noire sur la dune. Et quand il aperçut que cette tache était en effet son jeune maître, dont l'absence l'avait tant soucié, il ne sut plus comment donner cours à son allégresse. Il agite la queue, se roule, tord tout son petit cœur, saute, glapit, aboie, lèche son maître qui, sentant un bout de museau tout froid contre sa joue, crie, encore ensommeillé, « Couche, presto, à ton panier !» Que lui prend-il à son maître? Dans les entours, aussi loin que portent les yeux, il n'y a pas de panier. Avec lenteur, l'aube s'épanouissait dans l'âme du petit dormeur. Devant son esprit flottait encore un songe aux images légères où des elfes, parmi le clair de lune, errait, songe pareil aux brumes sur la dune. Et Johannes avait peur que la brise glacée ne dispersât ses mirages. « Gardons les yeux fermés, » pensa-t-il, « sans quoi je vais, comme de coutume, retrouver ma vieille horloge et ma tapisserie. » Il se sentit couché de façon incommode, sans couverture. Lentement, prudemment, il ouvrit les paupières. Splendeur sereine, voûte d'azur, nuée. Alors, écarquillant les yeux, il s'écria, « C'était donc vrai ?» Oui, il se trouvait étendu au milieu des dunes. Le joyeux soleil le réchauffait et il humait avec délice l'air frais du matin. Dans l'éloignement, une buée voilait les forêts. La cime du grand être et le toit de sa maison émergeaient des verdures. Des insectes, des abeilles entoura Johannes de leurs frodons. Au-dessus de sa tête, une alouette chantait en s'élançant dans le ciel clair. Au lointain, retentissaient des aboiements et l'on devinait les rumeurs confuses de la ville prochaine. Pas d'erreur, le monde était réellement tel que Johannes le voyait. Mais alors, comment faire le départ du songe et de la vérité? Qu'était devenu Liseron et le jeune lapin? Il ne les apercevait ni l'un ni l'autre. Seul presto était près de lui, sur son séant, dans la tente. Non loin s'ouvra un terrier. Mais il y en avait tant de terriers dans les dunes. Johannes allait se lever afin de considérer ce trou. Mais que serra-t-il dans sa main? Un frisson le secoua des cheveux aux orteils et quand, entre ses doigts écartés, brilla la clé d'or. Un long moment, il demeura sans voix. « Presto ! » s'écria-t-il enfin, des larmes plein les yeux. « C'était quand même vrai !» Presto se mit à bondir, s'efforçant, par ses aboiements, de faire comprendre qu'il avait faim et qu'il voulait rentrer. Rentrer, voilà ce dont Johannes ne s'était guère préoccupé, et au fond, il en témoigna peu d'envie. Bientôt, il entendit des gens l'appeler. Il envisagea enfin que sa conduite avait gravement manqué aux convenances et qu'après la liberté qu'il avait prise, il devait s'attendre chez lui à un accueil plutôt froid. Peu s'en fallut à cœur que ses larmes de ravissement ne devinssent du coup des larmes d'angoisse et de remords. Mais le souvenir de Liseron, qui était son ami et son confident, lui revint à la pensée. Il songea à la clé d'or dont lui avait fait don le roi des elfes, se pénétra de la réalité des événements qu'il venait de traverser, et, calme, préparé à tout, prit le chemin de sa maison. Il ne s'était guère douté que son escapade pût causer de pareilles transes. Il lui fallut s'engager solennellement à ne plus recommencer. « C'est ce que je ne puis promettre, » répondit-il fermement. Ces mots surprirent. Vainement, on l'interrogea en recourant tantôt aux prières, tantôt aux menaces. Mais il fit appel à Liseron et demeura inébranlable. Que lui emportaient les châtiments, pourvu qu'il gardât l'amitié de Liseron, et que n'endurera-t-il pour elle? Il pressait la clé d'or contre sa poitrine, serra les lèvres et ne répondait qu'en haussant les épaules. « Je ne puis rien promettre. » Son père conclut, « Laissons-le. S'il lui est survenu quelque chose, il finira bien par nous le dire. » Johannes sourit. En silence, il mangea ses tartines et monta à sa chambrette. Il coupa un morceau du cordon du store, y noua la précieuse clé d'or qu'il suspendit à son cou, sous sa chemise. Ensuite, l'âme tranquille, il se rendit à l'école. Johannes ne sut pas sa leçon et fut constamment distrait. Il acceptait avec pain qu'un favori d'Oberon, le roi des elfes, pût être obligé de faire des calculs et de conjuguer des verbes. Ses pensées s'évadaient sans cesse vers l'étang pour revivre les aventures merveilleuses de la veille. Impossible de douter, et pourtant qu'il s'avisa de les raconter et personne ne voudrait les admettre, pas même le maître qui le regardait d'un air rogue et le traitait de cancre. D'un cœur léger, il supporta les mauvaises notes et fit les pensumes qui s'étaient attirés par sa distraction. « Qu'ils me traitent comme il leur plaît, » se dit-il, « je n'en suis pas moins l'ami de Liseron, et je tiens plus à lui qu'à eux tous, y compris le maître. » Johannes manquait décidément de respect. Mais on pouvait alléguer à sa décharge que son estime pour son semblable avait beaucoup baissé depuis qu'il en avait la veille entendu tant de mal. Pourtant, comme il arrive souvent, il ne fut pas assez avisé pour mettre à profit sa sagesse, ou, pour mieux dire, il ne sut pas la dissimuler. Comme le maître enseignait que l'homme est la seule créature que Dieu ait douée de raison et chargée de régner sur l'univers, Johannes éclata de rire, ce qui lui coûta une mauvaise note, plus une verte réprimande. Et quand son voisin dut lire, « En présence d'une chose étonnante, on dit parfois qu'on n'a jamais rien vu de pareil sous le soleil. » Johannes s'empressa de corriger, « Sous le père de toutes choses. » Il fut la risée de la classe, et le maître, déconcerté par une stupidité si crasse, c'était ses propres termes, mit Johannes en retenue en lui imposant d'écrire 100 fois. En présence d'une chose étonnante, on dit parfois qu'on n'a jamais rien vu de pareil sous le soleil, et l'on peut en dire autant de ma bêtise. Les écoliers étaient partis. Ils demeuraient seuls. Le soleil allégrément resplendissait au dehors. Ses rayons, où vibra 1000 poussières, dessinaient sur le mur crépi des taches claires qui se déplaçait avec lenteur au gré de l'heure. Le maître s'en était allé en battant la porte derrière lui, et Johannes, pour la 52e fois, reprenait, en présence d'une. Quand une souris agile, aux yeux vifs comme le jaillit, aux petites oreilles soyeuses, sortit du coin le plus éloigné, courut sans bruit le long du mur. Il fit le mort afin de ne pas effrayer la jolie bête. Nullement farouche, elle s'approcha, promena un instant ses yeux vifs autour d'elle, et d'un bond sauta prestement sur le pupitre où Johannes écrivait. Il avait assisté déjà à bien des merveilles, mais en plein jour, et cela dans la classe, une souris, c'était à ne pas y croire. « Eh, fit-il, pour une souris, tu ne manques pas d'audace. » « Qu'aurais-je donc à craindre ?» dit-elle d'une voix tenue, et elle retroussa ses lèvres comme si elle riait. « Viens-tu de la part de Liseron ? » demanda-t-il très bas. « Non, je viens vous dire que le maître n'était nullement dans son tort, et que ces 100 lignes, vous ne les avez vraiment pas volées. »« Quoi ? Liseron n'a-t-il pas assuré que le soleil était le père de toutes choses ?»« C'est entendu, mais il en porte peu que d'autres le sachent. N'entretenez jamais les hommes de ces matières trop délicates pour leur esprit obtus. Ce sont des êtres d'une malfaisance et d'une grossièreté rare. Ils broient tout ce qui leur tombe sous les semelles. Nous en savons quelque chose, nous autres souris. Mais que continuez-vous à demeurer dans leur voisinage? Pourquoi ne pas vous réfugier au fond des bois? Et là, nous ne le pouvons, habitués que nous sommes à la nourriture des villes. Et, ma foi, en se garant prudemment de leurs pièges et de leurs lourds talons, il n'est pas trop difficile de vivre parmi eux. Nos pattes, par bonheur, sont lestes. Le pire, c'est que notre ennemi, pour réparer son défaut de malice, a conclu un accord avec le chat. Mais, dans les bois, se rencontrent des hiboux, des éperviers et au reste, ne devons-nous pas tous mourir? Donc, Johannes, rappelez-vous mon conseil. J'entends venir le maître. Encore un instant. Demandez à Liceron ce que je dois faire de ma clé d'or. Je l'ai suspendue à mon cou, sur ma poitrine. Mais, samedi soir, on me met une chemise propre et j'ai bien peur qu'on ne découvre ma clé d'or. Dites-moi où je puis la mettre en sûreté.
Sous terre, rien que sous terre. Là, les objets sont le mieux à l'abri. Voulez-vous que je la garde?
Non, pas ici à l'école. Enterrez-la dans les dunes. Je dirai à mon cousin, le mulot, de veiller sur elle.
Merci, petite souris.
Plouf, plouf. Ainsi retentirent les pas du maître qui approchait. Le temps pour Johannes de plonger sa plume dans l'encrier, et la souris avait disparu. Le maître, à qui il tardait sans doute de rentrer, fit grâce des 48 lignes restantes. Deux jours durant, Johannes ne passa pas un moment qui ne fût sans alarme. Constamment, on avait les yeux sur lui pour qu'il n'eût pas le moyen de fuir dans les dunes. Le vendredi vient, et toujours il portait sur lui la précieuse clé d'or. Le lendemain, on le changeait, on allait découvrir son trésor, le lui enlever. Cette pensée le transissait. Ni dans la maison, ni dans le jardin, il ne connaissait des cachettes suffisamment sûres. Au tombé du crépuscule, Johannes était assis à la fenêtre de sa chambrette. Ses regards attristés de désir cherchaient, au-delà des verdures, les sables lointains.
« Liceron, murmura-t-il anxieux, secourez-moi. »
Près de lui passa un frémissement d'ailes, des senteurs de muguet errèrent dans la brise et, tout à coup, il entendit une voix douce et familière. Liceron était debout sur la pluie de la fenêtre. Il balançait dans sa main une tige fleurie.
« Est-ce enfin toi ? » dit Johannes. « J'ai tant langui après ta venue. »«
Accompagne-moi, nous allons enterrer la clé d'or. »«
Je ne puis partir d'ici, » soupira Johannes, désolé.
Liceron le prit par la main, et il se sentit devenir aussi léger que le duvet d'une semence. Il plana dans le soir calme.
« Liceron, dit Johannes, je t'aime au point que, pour toi, je donnerai, je crois, tous les hommes et presto par-dessus.
Et de Simon le chat, que feras-tu? Sans qui, Liceron?
Ah, Simon ne se soucie guère que je l'aime. Ses attachements lui semblent futiles. Seule la marchande poisson lui tient au cœur, et encore seulement dans les moments où il a faim.
Penses-tu que Simon soit un chat comme les autres, Liceron?
Non, autrefois il fut homme.
On, non, bum, bum!
Un gros hanneton vint se jeter contre Johannes.
Ne pouvez-vous pas ouvrir vos yeux? Gronda l'insecte.
« Vraiment, ces ailes folles comme si tout l'espace du ciel était à eux. Ils flânent, désœuvrés, encombrant le chemin de quelqu'un qui, comme moi, sort en quête de sa subsistance et dévore tant qu'il peut pour remplir sa tâche. » Avec un grand bruit d'ailes, le hanneton continua son vol.
« Nous reproche-t-il de ne pas remplir la nôtre ?» demanda Johannes.
Leur unique tâche aux hannetons est, croit-il, de manger et de manger sans répit. Veux-tu, pour preuve, l'histoire du jeune hanneton?
Ah oui, raconte.
C'était une bestiole qui venait de sortir de terre en rampant. Le monde l'émerveillait. Un an entier, elle était demeurée ensevelie dans l'attente du premier soir de printemps. Quand elle éleva sa tête à ras du sol, les verdures, les herbes qu'inclinait la brise, les chants d'oiseaux la déconcertèrent. Que faire? Du bout de ses antennes, elle tâta les brandies autour d'elle. Elle était très belle à sa façon, les pattes noires et luisantes, le ventre bien gras et poudreux, le torse lisse comme un miroir. Par bonheur, elle aperçut non loin de là un hanneton qui ne l'égalait pas en beauté, mais qui, pour avoir pris l'essor un jour auparavant, passait déjà pour très vieux. Timidement, elle l'appela. « Que te faut-il, mon ami ?» dit celui-ci en la regardant de haut. « Cherches-tu ton chemin ?»«
Non, » répondit-elle poliment, « mais je ne sais à quoi m'occuper. En somme, que viens-je faire sur terre ?»«
Comment, tu l'ignores ?» s'étonna l'autre. « Je ne puis t'en faire un reproche, car j'ai commencé par partager ta simplicité. Écoute, l'essentiel dans notre existence, c'est de manger. Non loin d'ici, tu trouveras une haie de tilleul qui n'est là que pour que nous en mangeons avec tout le sel possible.
Qui a planté la haie à cet endroit ? S'informa le jeune hanneton.
Un être de haute taille qui nous prodigue ses bienfaits. Chaque matin, il vient jeter un coup d'œil. Ceux qui ont fait de leur mieux, il les emporte dans une maison resplendissante de lumière, où les hannetons vivent en commun dans la félicité. Celui qui passera la nuit à voler risquerait fort d'être happé par la chauve-souris.
« Je ne connais pas cette bête. Quelle est-elle ? » interrogea le novice.
« Un monstre effroyable aux dents aiguës qui nous assaille par derrière et nous broie entre ses mâchoires. »
Précisément à ces mots, ils entendirent au-dessus d'eux un cri perçant qui les morfondit jusqu'aux moelles.
« Brrr, la voilà !» cria l'hanneton. « Sois sur tes gardes, mon jeune ami. Sache-moi gré de t'avoir prévenu à temps. Tu as toute une nuit devant toi. Ne la perds pas à ne rien faire. Plus tu mangeras, moins tu courras risque de tomber entre les dents de notre ennemi. Par contre, qui accomplit tout son devoir, est accueilli dans le séjour de lumière. »
Le vieux hanneton s'éloigna dans le gazon, laissant son cadet profondément perplexe.
« Son devoir ? Sais-tu ce qui s'entend par là, Johannes ? »
« Non. » Le jeune hanneton n'en savait pas davantage. Il s'agissait de manger. C'était la seule chose qu'il comprit. Mais comment s'y prendre pour atteindre la haie de tilleul ?
Tout à côté de lui s'érigeait un robuste brin d'herbe qui berçait la brise du soir. Du bas, il paraissait une cime sourcilleuse et escarpée. Mais le hanneton n'entendait point renoncer.
« Ce doit être mon devoir, » se dit-il, et bravement il se mit à gravir.
Il n'avançait guère, souvent il glissait. Enfin, après beaucoup d'efforts, il atteignit au sommet. La tilleule, en se balançant, l'emportait avec elle. Il croyait découvrir sous lui la terre entière. Quel délice de voir autour de soi s'éployer de vastes étendues. Avidement, il rassasia sa faim à même l'herbe. Une aise délicieuse le combla. « Plus haute encore, plus haute !» Dans son ravissement, il souleva ses élytres, fit fibrer ses fines membranes. « Plus haute, encore plus haute !» De nouveau, ses ailes frémissent, ses pattes abandonnent leur soutien. « Oh, joie ! » Il vole, plein d'allégresse, dans le soir ardent.
« Et puis ?» demanda Johannes.
« La suite manque de gaieté. Je te la raconterai une autre fois. » Il venait de franchir l'étang. Deux petits papillons blonds attardés voltigeaient de conserve avec eux.
« Elfe, où allez-vous ? »
À ce grand rosier sauvage qui fleurit au penchant de la dune. répondit Liseron. Nous t'accompagnons, dirent les papillons. Déjà le rosier apparaissait, étalant tous ses bouquets aux corolles soyeuses. Les boutons rougissaient et leurs fleurs blanches épanouies avaient gardé à leurs pétales quelques rougeurs de leur prime enfance. Le rosier croissait paisiblement dans la solitude et répandait les senteurs si douces dont se nourrissent les elfes des dunes. Les papillons donnèrent à toutes les fleurs tour à tour un baiser. Nous venons te confier un trésor, dit Liseron. Consens-tu à avoir soin de lui?
Pourquoi pas, murmura le rosier. Faire la garde ne m'ennuie guère, et je ne pense pas à quitter cet endroit, à moins qu'on ne m'en arrache de force. J'ai d'ailleurs des épines pour me défendre.
Alors se présenta le mulot, un cousin de la souris de l'écueil, qui creusa la terre sous les racines et y enfouit la clé d'or.
Si tu la désires, appelle-moi, dit le mulot. En la voulant reprendre toi-même, tu feras du mal à la plante.
Le rosier tressa cette tige acérée au-dessus du trou et fit solennellement le serment de veiller sur le dépôt. Les papillons servirent de témoins. Le lendemain matin, Johannes se réveilla dans son lit auprès de Prasto, de l'horloge, dans sa chambre tapissée de papier à fleurs. Le cordon qu'il avait suspendu à son cou, ainsi que la clé d'or, avaient disparu.